chiama.
On va commencer. Alors, on va commencer là. Donc, je vais vous présenter les intervenants, donc sont trois collègues. Juste pour introduire et donner un petit peu le contexte, qui travaillent comme moi et comme André dans les services informatiques. Et tous les trois sont d'origine tunisienne, mais ils travaillent ici en France. Mais à l'occasion, donc, ils étaient depuis 10 mois ou depuis quelques mois à travailler dans leur pays d'origine sur un projet sur leur pays d'origine. Donc, la chose est commencée qu'un jour je suis arrivé au bureau et j'ai entendu parler un peu fort devant la machine à café et ils venaient de rentrer, ils avaient beaucoup de choses à raconter. Hein? C'est un peu comme ça qu'il a commencé et ça me paraissait très intéressant d'avoir un témoignage des trois personnes qui ont vécu directement et qui ont aussi, les trois étant des informaticiens, un regard un peu sur tout ce qui s'est passé, sur l'utilisation des réseaux, etc. là-bas. Donc, je vous les présente, Feten, Mohamed Ali et Mohamed, et qui vont raconter un peu. Après, on fait comme d'habitude, on se laisse combien de temps, à la fin, une demi-heure pour les débats, pour les questions-réponses, etc. À partir de ce qu'ils vont nous raconter sur ce qui s'est passé et sur un peu comment tout ça s'est coordonné avec aussi les réseaux, etc.
Vas-y. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir notre expérience, chacun, comment on a vécu les événements en Tunisie, puisqu'on était là-bas sur la période de décembre et début janvier. Donc, moi, je vais vous raconter tout simplement ce que j'ai vécu pendant ce mois. Alors, tout a commencé avec l'immolation d'un jeune de Sidi Bouzid, qui est une région, on va dire, délaissée de la Tunisie. C'est une région de l'intérieur qui est un petit peu la région en opposition à la côte, qui est bien financée avec des projets, avec le tourisme et tout ça. Il y a des régions en Tunisie qui sont des régions délaissées, on ne veut pas trop en parler. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là s'est retrouvée à vendre tout simplement des fruits la municipalité, on va dire, la mairie, avait des agents qui, dont le but étant bien sûr de respecter la loi. Sauf que la loi, il faut expliquer aux gens pourquoi on est en train de faire cela et il faut essayer qu'ils fassent partie intégrante de ça. Le problème, c'est que ces gens qui essayaient d'appliquer la loi, cette personne étant en infraction, l'ont appliquée d'une manière qui a un petit peu touché l'orgueil de cette personne-là, puisque l'une des femmes l'a carrément giflée. Et cette personne-là est partie dans l'après-midi voir le maire du village pour lui dire voilà ce qui s'est passé, et malheureusement a été très mal accueillie. Et la personne, le maire, lui a dit dégage, t'es qu'un sale con, et ce qui a été très très difficile pour cette personne à accepter. Alors ce qui s'est passé, c'est que le jour d'après ou le jour même, je ne sais pas, cette personne est partie face à la mairie et justement elle s'est immolée au feu. Ce qui s'est passé, c'est que après ces événements-là, il y a eu une sorte d'émeute à Sidi Bouzid. Et on a commencé petit à petit, tous dans la Tunisie, à entendre parler de ces problèmes-là via, premièrement, Facebook, bien sûr, puisque les vidéos ont commencé à circuler petit à petit. Et bien sûr, il y avait un média puissant qui s'appelle Al Jazeera qui a relayé ces informations-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les jours d'après, pendant 3 jours, il y avait des émeutes dans cette ville-là qui ont petit à petit commencé à regagner des villes de l'intérieur. Et l'objectif principal de ce martyr, c'était justement de retrouver cette sorte de dignité, et au moins la dignité, on la retrouve via le travail. Et comme c'était quelqu'un au chômage, eh bien, étant cette revendication de trouver du boulot est une revendication très partagée par une grande majorité des jeunes Tunisiens qui accèdent au diplôme, mais à la fin, en fait, si on ne connaît pas quelqu'un pour avoir du boulot, c'est très difficile. On peut attendre pendant des années avant de trouver du boulot. Alors, Les manifestations ont commencé à grogner dans toute la Tunisie, principalement dans les villes de l'intérieur. Le président, face à ça, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un premier discours dans lequel il a dit « Eh bien, je vous ai entendu, les régions de l'intérieur, ce que je vais faire, ben, je vais vous aider, voilà mes plans d'encouragement à l'économie, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça. »
Et alors, à ce moment-là, après 10 jours, hein, des notes, il est intervenu, c'est-à-dire les médias tunisiens, ils ont fait le blackout pendant 10 jours, comme si rien n'était. Officiellement, les Tunisiens, ils n'avaient pas accès à l'information, que par Facebook et par... officiellement, dans le journal de 20h, on ne disait rien du tout par rapport à ça. On regardait sur Al Jazeera ou sur Facebook, il y avait des émeutes, il y avait des morts, alors que sur le journal officiel, on montrait le président en train de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait.
Ouais. Effectivement, donc après ces événements-là, il y a eu des morts, ça s'est propagé dans quelques villes sans être vraiment une révolte populaire, etc. Alors, quelques jours après, on commence quand même à voir des choses un petit peu bizarres. On commence à voir des avocats, des médecins appelés à ce que... carrément, un des tabous de la Tunisie, c'était de parler de la famille de Ben Ali, de parler de sa femme, de parler des lobbies et tout ça. Et on commence à voir des séquences vidéo avec des avocats, avec les visages découverts, qui sont en train de dire « Voilà, on n'est pas d'accord avec ce que fait Ben Ali et on veut que ce clan-là, qui est le clan des Trabelsi, la famille... » de la femme de Ben Ali, qui avait la main mise sur l'économie tunisienne, nous, en gros, dégage, en fait. C'est le mot qui est le plus
utilisé
en Tunisie, c'est le mot dégage. Et donc, suite à ça, en fait, commence un mouvement un petit peu plus élargi. Il faut savoir que, justement, Facebook a joué un rôle important, puisque toutes les séquences étaient postées de Facebook vers Al Jazeera, et donc les gens voyaient ça le soir.
Juste remarque, à ce moment-là, en fait, avant, en tant que Tunisien, nous, on avait peur sur Facebook, même d'évoquer le mot Ben Ali. C'était interdit. Il y avait juste quelques opposants, vraiment, qui osaient d'en parler, mais qui étaient vraiment embêtés. Hein. C'est-à-dire embêtés, ils allaient en prison. S'ils osaient de provoquer ou de contester Ben Ali, c'était simple, les gens, les policiers venaient directement chez eux, ils les torturaient en prison. Ça, c'était clair et net. À partir de ce moment-là, les gens, ils osaient de plus en plus d'en parler, alors qu'il y avait les émeutes dans cette ville de Sidi Bouzid. Les gens commençaient à en parler. Et d'après notre expérience commune, on commençait nous-mêmes à ne plus avoir peur, à poster des vidéos, à en parler, à changer notre photo de profil. Tous les Tunisiens à cette époque-là commençaient de plus en plus à mettre des drapeaux ou parler de ce qui se passait à Sidi Bouzid. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à changer ma photo et d'en parler, je voyais que mes amis aussi, j'avais en quelque sorte une petite influence sur mes amis, ils commençaient aussi à le faire. Parce que moi, quand j'ai vu mes amis qui commençaient à le faire, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi. Et petit à petit, moi, je voyais sur mon compte Facebook que tous mes amis avaient le drapeau tunisien taché de sang.
C'était un tout petit peu plus tard, ça. Enfin, c'était suite... Non, mais à peu près, effectivement, il y avait le drapeau tunisien. Enfin, sur Facebook, là, regarde, la révolte et la résistance, c'est bien déroulé. Donc, premier discours du président, je vous ai compris, les régions de l'intérieur, votre révolte est une révolte sociale. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout compris que ce n'était pas que social. La révolution tunisienne, c'est un deux volets. Effectivement, le social, bien sûr, qu'on a besoin de pain, qu'on a besoin de travailler et tout ça, mais il y a une révolte assez importante parce qu'on a besoin aussi de dignité et de liberté parce que ce gouvernement, Ben Ali est au pouvoir depuis 87 et ça fait 23 ans qu'il est aux manettes avec un parti politique, le RCD, qui contrôle le tout avec un appareil sécuritaire phénoménal avec 240 000 policiers en Tunisie, c'est le nombre de policiers en France, alors que la population c'est que 10 millions de personnes. Donc face à ce ras-le-bol, dans cette révolution tunisienne, s'est marié au fait deux couches de population. La couche populaire avec ses revendications qui sont « j'ai besoin de manger, moi simplement je fais pas de la politique, j'ai juste besoin de trouver du boulot et de manger ce soir ». Et la revendication des couches un petit peu plus aisées, les avocats, les médecins et autres, qui eux demandaient qu'une seule chose, c'est la liberté.
Mais ça n'empêche qu'au début, qu'en fait, on parlait plus du côté social, jusqu'au jour où on avait tué des jeunes dans une ville qui s'appelle Gasserine, en Tunisie, mais au début, en fait, les gens, ils écoutaient un peu ses discours. Quand il parle du travail, il a parlé carrément d'un nombre de 300 000 en 2 ans, ce qui n'était pas crédible du tout. On s'en moquait. Mais jusqu'au jour où on a tué des jeunes dans une ville, c'est là que tout le peuple a dit non, notre problème, ce n'est pas juste le travail, c'est plus que le travail. Et là, tout le monde a osé parler et, comme il a dit, poster sur Facebook des photos avec sa photo à lui, avec Wanted et tout ça. Parce qu'on a dit, c'est pas juste le problème du travail. Au début, il a trouvé des excuses et il parlait juste du travail, du travail, du travail.
Donc, juste par rapport au premier discours, en fait, je me souviens que suite au premier discours, en fait, pendant la révolution tunisienne, il y a eu 3 discours du président. Dans le dernier, c'était la veille de sa chute, de son départ. Lors du premier, il a paru comme un dictateur. Voilà, il a dit, voilà, les gens qui vont continuer à faire ça, on va les écraser. Vous nuisez à l'image de la Tunisie, vous êtes en train de détruire le tourisme, donc les gens qui sont en train de faire ça sont les ennemis de la Tunisie, ce sont des terroristes.
Des criminels.
Des terroristes aussi, il l'a dit. Suite à ça, le lendemain sur les réseaux sociaux, les gens ils sont commencés à se moquer de lui. D'ailleurs, du mot qu'il a utilisé, bukoli hazm, c'est-à-dire avec fermeté. Donc là, c'est un premier, basculement, c'est-à-dire les gens qui n'osaient même pas parler de Ben Ali dans Facebook commençaient à se moquer de lui et de son discours. Donc les événements ont continué, la grogne a continué, jusqu'à son deuxième discours, où il a dit en gros qu'il a compris qu'il y avait des problèmes, mais qu'il a complètement ignoré le volet politique. Il a juste parlé de problèmes sociaux. Il a dit, ouais, je vous ai compris et tout. Et je vais vous offrir 300 000 emplois en 2 ans. Ce qui était un peu... Et ça n'a fait que grandir les moqueries sur Internet et les appels à la continuation des mouvements dans toutes les villes. Suite à ce deuxième discours, donc, les gens y croyaient de plus en plus. En même temps, il y avait beaucoup de rumeurs sur Facebook. Donc il y avait de l'intox, il y avait des rumeurs. On commençait à dire qu'il va partir, qu'il y a un coup d'État. Donc on commençait à y croire en fait, parce qu'avant c'était on pensait jamais qu'on pouvait le chasser de la Tunisie, mais petit à petit on commençait à y croire.
Une semaine avant le départ de Ben Ali s'est fait le vendredi 14 janvier. Le week-end samedi-dimanche, entre samedi et dimanche, il y a eu un vrai massacre dans une ville de l'intérieur qui s'appelle Ghazni. Ce qui s'est passé au fait que la révolution tunisienne s'est un petit peu propagée en Algérie et on a vu des photos en Algérie sur des événements où c'était vraiment violent. Ça veut dire quoi? Au début, les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils balançaient une pierre, ils cassaient un truc et tout ça. Et les images qu'on avait venant de l'Algérie pendant 4 jours, c'était des images encore plus violentes. Ça veut dire que les gens, carrément, c'était des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre. Et ce qui s'est passé, peut-être, je pense, comme la ville de Ghazni, c'est une ville frontalière avec l'Algérie, je pense que les gens ils se sont dit pourquoi on va pas encore plus loin, parce que de toute façon ce gouvernement il ne comprend rien, on va peut-être aller plus loin en termes de violence. Et justement en passant à un stade supérieur en termes de force, parce que c'est un bras de fer en fait, il faut, de toute façon il y avait déjà à peu près 25 morts, donc je pense que entre samedi et dimanche il y a eu un recrudescence des violences et du coup il y avait vraiment un massacre. Ben Ali a envoyé sa police, sa garde rapprochée. Et la garde rapprochée, ben, c'était quoi? C'était vraiment des snipers qui tiraient sur les gens. Et ce jour-là, il y a eu à peu près officiellement 14 morts. Et sur Al Jazeera, il y avait au moins 25 morts. Et en voyant 25 morts défiler, le peuple tunisien n'est pas du tout habitué à voir 25 morts. Enfin, pour nous, c'est quelque chose de phénoménal. C'était vraiment le choc.
On voyait leurs images sur Facebook, hein, c'est-à-dire les morts dans les hôpitaux. Presque à temps réel, on voyait leur tête sur Facebook exploser par des balles réelles tirées directement sur la tête. C'est pas des balles perdues, c'est vraiment des balles visées pour montrer en fait la crucité de cette police, quoi. On voyait directement, et en voyant les images, c'est-à-dire ils tuaient même un enseignant chercheur afro-tunisien, quoi, le mec qui est un docteur, et qu'on le tue juste parce qu'il a manifesté.
Donc ce samedi-là, c'est vraiment le switch. J'ai l'impression que psychologiquement, c'était le point de non-retour. Samedi, moi, j'habite dans un village, dans une ville de l'intérieur. Bon, j'avais pas internet sur ce week-end-là. Et bon, j'avais ma famille qui sont vraiment, mon père qui est à la retraite, mais bon, ma mère aussi, et ils n'ont pas forcément d'opinion politique, ils ne sont pas forcément engagés pour renverser Ben Ali. Mais en voyant ça, en fait, c'était vraiment les images choc. C'était le moment où c'était vraiment la rupture entre le peuple et le pouvoir. Parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Il a osé tirer sur les citoyens qui n'ont demandé qu'une chose, c'est la liberté, c'est un peu plus de liberté et tout ça. Donc samedi, dimanche, c'était une journée vraiment où ça s'est propagé d'une manière phénoménale dans toutes les villes. Et pour la première fois, elle touche la ville de Tunis, qui jusque-là était épargnée. Et donc la ville de Tunis, qui, comme c'est une grande ville, bah, il y a des quartiers populaires, il y a des quartiers où c'est un peu plus calme. Ça a commencé par les quartiers populaires, et quand ça a commencé à toucher Tunis, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a décrété le couvre-feu. Donc lundi, on recommence à bosser, mais au fait, les écoles étaient fermées à ce moment-là. Quand ça touche Tunis, ça commence à être vraiment dangereux, parce que c'est vraiment le lieu où il y a le pouvoir et tout ça.
Vous étiez à Tunis?
Ouais.
Tunis, on était à Tunis, on bossait à Tunis. Les écoles étaient fermées, les universités étaient fermées. Lundi, il commence à y avoir encore des morts à Tunis, dans le Kram, dans des quartiers un peu de la périphérie de Tunis. Et ce qui se passe, c'est que mardi, c'était une journée où il faisait vraiment très très mauvais en termes... Alors la Tunisie, il fait toujours beau. Je vous invite à y aller souvent parce qu'il fait vraiment beau. Et mardi, c'était une journée vraiment triste. Ce jour-là, en fait, on se lève le matin et on a l'impression qu'il va se passer quelque chose ce jour-là. Je ne sais pas, tous dans la Tunisie, on a senti qu'il y avait quelque chose. C'était une journée vraiment triste, à la veille d'un vraiment un vrai massacre. Et moi, j'allais en voiture, j'étais comme ça, je mettais la musique, et le présentateur de la radio, il disait, on espère de toute façon, on espère qu'aujourd'hui ça ira bien, on sent que c'est une journée triste, je sais pas, il allait se passer quelque chose. C'était encore une journée où il y a eu à peu près 25 morts, comme ça. À partir de ce moment-là, et au fait, il y a le volet politique dont on n'a pas parlé jusque-là. En Tunisie, il y a une organisation syndicale unique qui s'appelle l'UGTT, qui jusque-là était, entre guillemets, pro-pouvoir. Elle disait à chaque fois, non, j'appelle pas aux manifestations, non, il faut essayer de négocier avec le pouvoir. Et ce jour-là, mardi, elle a finalement basculé dans le sens du peuple tunisien. Et elle s'est dit, ah bah tiens, ce qu'on va faire, c'est une grève générale dans des
dans différentes villes.
Voilà, dans différentes villes. Comme c'est une organisation nationale, elle s'est dit, non, on va pas faire la grève générale partout, parce qu'il faut du temps pour organiser ça.
Juste remarque par rapport au syndicat tunisien, il n'était pas pro-pouvoir, parce que c'est vraiment un syndicat qui est très fort, qui est historique dans le monde arabe, c'est le premier. Et c'est elle est vraiment très forte, cette union syndicale tunisienne. Mais le problème, c'est que Ben Ali, comme le régime de Ben Ali, comme il l'avait fait avec toutes les institutions du pays, il a en gros, c'est un putsch. Il a mis des gens pro-Ben Ali à la tête de ce syndicat, qui ne représentent pas les vrais syndicalistes. C'est pour ça qu'ils appelaient officiellement au calme et tout. Par contre, les vrais syndicalistes qui contestaient leur responsable syndicaux, ils appelaient à la manifester et voilà, c'est juste...
Là, donc, effectivement, le jour où l'UGTT s'est rallié au peuple tunisien, ils se sont dit, tiens, il y a des régions qui s'appellent Sidi Bouzid, qui s'appellent Gasserine, Gbili, ils ont payé un tribut super, super lourd, parce que c'est vraiment les régions de l'intérieur, c'est eux qui ont fait le berceau de la révolution, eux, ils ne peuvent pas attendre. Ils doivent faire leur grève générale le mardi, je crois. Après, ça va être Sfax, qui est la deuxième ville du pays, et ensuite, vendredi, c'est Tunis. À partir de ce moment-là, moi, personnellement, je me suis dit, je pense que Ben Ali, vers vendredi, il partira. Pourquoi? Une grève générale à Tunis, une grande manif à Tunis, c'est le centre, en fin de compte, je pense que le pouvoir ne pourra pas supporter ça. Je me suis dit, peut-être qu'il partira vendredi, je lui ai dit, il ne m'a pas cru. Mais, donc voilà, on commençait un petit peu les grèves générales, et le deuxième switch, enfin le deuxième moment fort de la révolution, c'était la manif de Sfax, la deuxième ville du pays, le jeudi, je crois, mercredi à peu près. Sfax, c'est une ville, on va dire,
riche,
avec des... Bon, la Tunisie, c'est un petit pays, mais les Sfaxiens sont toujours vus comme étant les gens qui ont réussi. Ce sont les gens, voilà,
les
qui
bosseurs,
ont
mis,
voilà. Les hommes d'affaires et tout ça.
Ils ont un petit peu ce pouvoir-là, c'est des gens cultivés dans leur majorité et tout ça. Et quand on a vu ce moment-là à Sfax, c'est là qu'on sent que effectivement Sfax étant une ville riche, tout ça, elle s'est quand même rebellée, elle s'est quand même réussi à avoir 50 000 personnes dans la rue qui disent on n'en veut pas de Ben Ali, et en même temps Sidi Bouzid, qui est la ville la plus pauvre peut-être de la Tunisie, qui se rebelle, qui n'a peut-être pas le même pouvoir politiquement parlant, qui n'a pas d'élite qui pourra exprimer les craintes et l'aspiration de son peuple, mais en même temps, c'est ce mélange-là qui a fait que la révolution était vraiment, vraiment super forte.
Je voulais poser une question, parce que, évidemment, c'est passé un décalage entre la mémoire et la révolution. Je voulais savoir, dans votre avis, comment est possible qu'un système qui a tenu jusqu'à maintenant, à un moment donné, s'effondre comme ça? C'est-à-dire, on l'a déjà vu dans les pays de l'Est. Hein. Mm. C'est-à-dire, on savait qu'à l'intérieur, malgré tous les discours qu'on essaie de faire, il y a une société civile, il y a un développement culturel, il y a une recherche des libertés, quand tous les éléments sont mis ensemble, malgré que personne, comme toujours les observateurs et les politiciens, n'avaient jamais imaginé une situation comme ça, qui claque. À ton avis, quels sont les éléments qui ont porté à maturité tout ça? Parce que je peux, c'est-à-dire dans l'intérieur, quel est cet élément qui, à un moment donné, mis ensemble, a démontré que c'était une croyance, cet individu, que c'était rien?
Moi, je pense que c'est, en fait, plus un gouvernement est hermétique à toutes les demandes de changement politique. Ben Ali a toujours nié l'existence de prisonniers politiques. Il vient en France, et on lui pose la question sur les prisonniers politiques. Moi, je me rappelle très bien, il disait, mais il n'y a pas de prisonniers politiques en Tunisie. Tout le monde sait très bien que c'est un double discours. Tout le monde sait très bien qu'on appelle ça la TV7. TV7, c'est le jour où il a renversé l'ancien président Bourguiba. Des rues 7 novembre, il y en a partout. Des places 7 novembre, il y en a partout. Les photos de Ben Ali, c'est partout. À un moment donné, je pense, et ça c'est important, c'est que quand on oppresse un peuple à un degré où c'est insupportable, ça devient, c'est la moindre étincelle pourrait tout faire exploser. La révolution tunisienne, par contre, elle était prévisible. Il y a 2 ans déjà, il y a eu des événements dans
des mines, en fait, dans des villes
minières. Ouais.
Juste par rapport, pour moi, hein, l'élément le plus important qui a amené la révolution tunisienne, parce qu'on était sous une dictature depuis 23 ans quand même, et même avant c'est une dictature, c'est l'accès à l'information. En fait, la télé nationale officielle dont il parlait là, elle est devenue ridicule à un tel point. Elle a toujours été ridicule, mais là, avec une jeunesse éduquée et qui avait facilement accès à l'information, la vraie information, c'est devenu une pièce de théâtre, quoi. Tous les 20 heures, on disait que tout allait bien et que voilà, Monsieur Ben Ali, le roi, il régnait sur tout et il aimait son peuple. C'était vraiment une pièce de théâtre. Et en même temps, les jeunes, ils avaient accès à une vraie information via Facebook et via des chaînes satellitaires comme Al Jazeera ou France 24. Ils voyaient le décalage. C'est-à-dire, c'était vraiment les antipodes, quoi. Les gens, ils voyaient des morts sur Facebook, et à la télé nationale, on disait, non, il se passe rien, Ben Ali a fait une nouvelle, je sais pas quoi, des nouvelles... il donne des cadeaux pour le peuple, et je sais pas quoi. Donc forcément, l'accès à l'information a facilité cette...
Et même la seule fois où on a parlé de la personne qui s'est immolée, c'est qu'on a dit juste c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques
au début,
et que ça arrive dans... De toute façon, ils ont même dit qu'il y a des pays où les gens se suicident tous les jours, mais en fait ils ne veulent pas en fait donner de l'importance au point où c'est-à-dire que cette personne-là n'a pas de travail et que c'est pas le seul, etc., etc. Ils ont juste pris la partie de voilà, il a des problèmes psychologiques, c'est pas le seul, on n'est pas le seul pays là où quelqu'un se suicide, et voilà, c'est de suite.
C'est vrai. Donc ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de couper Facebook. Ils l'ont essayé déjà il y a un an, mais ils n'ont pas réussi.
Parce
qu'il y a eu des contestations. Ils ont essayé de couper, hein, carrément.
Et que pourquoi ils n'ont pas réussi?
Parce
que expliquer un peu comment... l'épisode que vous disiez de ces blogueurs qui
après... Donc ils ont coupé... déjà, YouTube, il ne marche pas en Tunisie. Il ne marchait pas en Tunisie jusqu'à la Révolution. Ils ont essayé de couper Facebook parce qu'il y avait des vidéos justement qui parlaient de Ben Ali. Et il y avait des vidéos d'opposants. Ils ont coupé YouTube et l'année dernière ils ont essayé de couper Facebook, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu beaucoup de contestations chez les jeunes. Ils ont essayé de commencer à faire des manifestations dans les rues, donc ils ont rétabli ça. D'ailleurs, en disant officiellement que c'est Ben Ali lui-même qui a offert Facebook aux jeunes, il n'était pas au courant de la censure, c'est pas lui qui a censuré Facebook, c'est lui qui rétablit Facebook pour les jeunes dans les journaux officiels, il y a un an et demi à peu près. Donc après, ils ont commencé quand même à censurer des pages sur Facebook, des groupes par exemple qui étaient anti-Ben Ali. Et les Tunisiens, ils ont commencé à chercher des astuces pour contourner cette censure par des proxys. Tous les jeunes sont des experts là, en informatique. Hein. Ils te parlent, même un jeune de 14 ans, il sait comment se connecter via un proxy, comment se connecter pour accéder à des sites censurés, installer des programmes. Donc, en voulant censurer Internet, il a créé une jeunesse qui était experte dans l'informatique et politique aussi, parce qu'il voulait se renseigner sur les raisons pour lesquelles Ben Ali voulait les empêcher à accéder à l'information. Parallèlement, il y a eu, je pense que c'est un événement qui était assez important, ce qu'on appelle Anonymous. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un... Pour l'instant, c'est un peu flou, hein. On ne sait pas encore qui ils sont vraiment, mais qui ont participé à attaquer les sites
du gouvernement,
de la télé. Genre, sur la télé officielle, ils mettaient que la télé officielle demande à Ben Ali la démission, des fausses informations comme ça. Ils ont, voilà, ils ont commencé un peu à attaquer les sites officiels, quoi.
Je pense que c'est effectivement bon, Facebook, l'information, la communication, tout ça c'est important. Mais en Tunisie, il y avait une dictature qui était dans le monde arabe, qui était vraiment la dictature parfaite. C'est croissance économique, la Tunisie étant montrée comme étant un modèle à suivre dans toute la région. Voilà, la Tunisie qui réussit, la liberté de la femme, voilà, tout va bien. Mais le problème, effectivement, moi je disais qu'il y avait des indices. Il y avait des événements déjà il y a 2 ans. Dans des villes minières de la Tunisie, qui a été réprimée et les gens étaient emprisonnés. Après, il y a eu un autre événement, parce que nous, on a 2 voisins qui sont l'Algérie et la Libye. La Libye, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé les frontières. Mais ce qui s'est passé, c'est que la ville frontière, où les gens travaillaient avec la Libye, il y a eu plein de manifestations et pareil, ça a été réprimé. Et ce qu'on voit, c'est quoi aussi? C'est le football, la place qu'a pris le football dans la Tunisie. Quand on ouvre la télé tunisienne.
Il y a des événements culturels aussi. Hein.
La télé tunisienne, ben c'est quoi? C'est un mélange entre la télé-réalité et le foot. Et donc, la seule chose que pouvaient regarder les gens, c'est quoi? C'est une émission de télé-réalité ou bien c'est une émission sur le foot. Maintenant, c'est lundi sport, mardi sport, mercredi sport, dimanche, ils jouent, donc on regarde. Le samedi, on analyse les matchs à venir. Le lundi, on analyse le match passé. Et
alors,
c'était vraiment...
la révolution aussi en Italie.
C'est vrai. Non, mais en plus, à part le foot, en fait, il y avait un autre truc, c'est que la Tunisie, dans le monde arabe, elle est très connue par le fait que c'est un pays là où ça bouge culturellement comme pas possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours des festivals. Tout au long de l'année, il y a plein de concerts, il y a tous les chanteurs. Et en fait, ils ont même fait des stats pour dire que la Tunisie, comme relativement plein d'autres pays arabes, c'est un petit pays et qui n'est pas les Émirats ou d'autres pays où l'Égypte, là où ça devrait bouger culturellement. Et pourtant, l'été, vous trouvez 126 festivals en Tunisie. C'est vrai, en fait, les gens, ils se disent, oui, c'est bien, on a toujours des choses à faire. Même dans une petite ville, vous trouvez des festivals, ils ramènent des chanteurs orientaux, des chanteurs occidentaux. D'ailleurs, Michael Jackson était en Tunisie. En fait, c'est vrai, ça bouge, mais c'est vrai que les gens, parfois, ils se posaient des questions. Ils disaient, pourquoi? C'est bien pour nous, mais peut-être il y a quelque chose qui se cache derrière ça. C'est-à-dire, on a le foot, on a culturellement, ça bouge toujours. Et c'était clair qu'on voulait quelque part.
C'est un peu les gladiateurs, hein. Donc le peuple, il faut l'occuper, donc on va lui donner des gladiateurs à regarder et tout ça. Et donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que pendant les matchs de foot, il y avait toujours des altercations entre supporters et forces de l'ordre. Les forces de l'ordre en Tunisie sont devenues le symbole de cette oppression. Ça veut dire qu'on prend la voiture. Et de toute façon, on est arrêté au moins 5 fois quand on a une voiture. Et nous, comme notre moyen de transport, c'est des voitures de location. Donc, on est souvent arrêté par des flics. Et ces flics-là, ben, ils nous demandent de l'argent. Et c'est vraiment... Le rapport entre le citoyen et les forces de l'ordre était un rapport vraiment, vraiment dégradé. Et ça se voyait. C'était vraiment l'oral-bol. Il y avait, on dirait que c'était des gens qui ne faisaient plus partie du peuple. Parce que les gens, ils voyaient en eux le symbole de la répression et l'appareil qui fait en sorte que la mainmise de Ben Ali et le clan de sa famille, parce que sa famille, c'est important, la femme de Ben Ali... C'est vraiment elle qui a participé à sa chute. Parce que lui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, de toute façon, Ben Ali n'est peut-être pas responsable de tout. C'est sa femme qui manigance un petit peu, qui fait en sorte que ses neveux, ses frères, tout ça, fassent la mainmise sur l'économie tunisienne, les médias, les banques et tout ça. Et une anecdote, par exemple, c'est Ben Ali qui circule en voiture, et il est arrêté par un policier qui lui demande ses papiers, il lui dit oui, mais je suis le président de la République, il lui dit mais non, mais je ne te connais pas, donne-moi tes pièces d'identité quand même. Il prend ses pièces d'identité, il part voir la personne au commissariat, et après il revient avec les papiers, il lui donne, il lui dit ouais, c'est bon, laisse-le partir, il fait partie de la famille Trabelsi. Et Trabelsi, c'est la femme de Ben Ali, en fait. C'est pour dire que c'est la famille qui a pris le pouvoir, et non pas Ben Ali, qui est devenu, suite à son concert, une sorte de marionnette utilisée par un petit peu les familles au pouvoir en Tunisie, les familles qui contrôlent un petit peu l'économie du pays. La révolution tunisienne, au fait, c'est vraiment ça. Je pense que c'est le mélange entre les couches populaires et les couches élitistes. Il y a des gens qui aspirent à la liberté et d'autres personnes qui sont des jeunes, qui ont quand même payé le tribut le plus lourd, ce sont les régions de l'intérieur. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir se poser la question suivante. Si on veut vivre avec Ben Ali, ben on peut vivre. Il n'y a pas de problème, on ne parle pas, bon, ben, y a des problèmes économiques, il y a du chômage. Mais si on veut faire tomber Ben Ali, il y a un prix à payer. Ouais, de toute façon, il y a un prix à payer.
Voilà,
de toute façon, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, ben, justement, ce sont les gens qui sont partis défier les forces de l'ordre. Ce sont les personnes qui sont parties les chercher. Et ces gens-là, ben, ils n'avaient rien à perdre. De toute façon, c'était une jeunesse un petit peu perdue qui, de toute façon, même s'il a son diplôme, il sait très bien qu'il va rester 5 ans à ne pas travailler. Ou sinon, s'il a un peu d'argent, il va donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il passe ce qu'on appelle le CAPES et tout ça, parce que de toute façon ça marchait comme ça.